Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il faut une solidarité active pour atteindre l'objectif de l'état de siège, et ce, depuis le chef de l'État, le Premier ministre, jusqu'au gouverneur des provinces. Déclaration de la patronne de la MONUSCO hier devant la presse à Bunia, Madame Bintou Keïta a rencontré le gouverneur de l'Ituri. Une vingtaine de condamnés de la prison centrale de Kananga bénéficient de la mesure de grâce présidentielle répondant aux critères d'éligibilité. Ils ont été libérés sur décision du procureur général près la cour d'appel du Kansai central. Et puis, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur prend acte de la destitution du gouverneur Atumatubwana du Congo central. Daniel Asselo estime que c'est une obligation constitutionnelle de pouvoir urgemment combler le vide à la tête de cette province. Il est notre invité ce matin. Comme dit dans le sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a pris acte de la destitution du gouverneur du Congo central, Atumatubwana. Daniel Asselo Kito l'a dit à travers une note de service datée du dimanche 5 septembre 2021, adressée au vice-gouverneur du Congo central. Le vice-premier ministre dit tirer les conséquences de la décision de destitution du gouverneur, décision prise le 4 décembre 2019 par l'Assemblée provinciale du Congo central. Il affirme également s'est basé sur l'arrêt en interprétation de la Cour constitutionnelle du 20 mai 2020. À travers cette note de service, il demande au vice-gouverneur d'assumer l'intérim en attendant l'organisation des élections par la CENI pour désigner les nouveaux animateurs de la province du Congo central. Madame, Messieurs, bonjour. Il faut une solidarité active pour que l'objectif de l'état de siège soit atteint. Déclaration de la chef de la MONUSCO hier devant la presse à Bunia. C'était à la sortie d'une séance de travail avec le gouverneur de l'Ituri. Madame Bintou Keïta en a profité pour réaffirmer le soutien de la mission onusienne au FARDC dans les opérations de traque contre les groupes armés qui endeuillent l'Ituri. Elle a par ailleurs salué la bonne collaboration qui existe entre la MONUSCO et l'armée congolaise dans la sécurisation des civils dans les territoires de Djougou et d'Irumu. La chef de la MONUSCO s'exprime au micro de Martial Kizabiamungu.
Que l'objet de notre conversation était essentiellement, pour moi, de venir prendre la mesure de ce qui est en train de se faire du côté des opérations en ce qui concerne la mise en œuvre de l'état de siège, et aussi échanger sur des questions qui sont de préoccupation générale en relation avec le système de la justice, entre la justice militaire, la justice civile, mais aussi la protection des populations et surtout une grande importance de sensibiliser la population et faire comprendre que nous sommes dans la lutte contre les groupes armés, et les groupes armés, y compris donc les milices et les milices communautaires, mais dans ce contexte, c'est aussi une guerre de communication, c'est aussi une guerre psychologique, et très clairement, on a besoin d'une solidarité active pour que l'objectif de l'état de siège puisse être atteint, depuis le chef de l'État jusqu'au Premier ministre, jusqu'au gouverneur, que ce soit le gouverneur ici ou le gouverneur du Nord Kivu. On est dans une étroite collaboration et coopération et une amélioration continue de cette coopération et de cette collaboration. On a une volonté manifeste de collaborer, de coopérer ensemble.
Notons que la représentante spéciale du secrétaire général de l'Union RDC et chef de la MONUSCO est accompagnée d'une forte délégation composée de son adjoint chargé des opérations et de la protection, de celui en charge des affaires humanitaires ainsi que du commandant de la force de la MONUSCO. Ce mardi, Bintou Keïta et sa délégation vont se rendre à Fataki dans le territoire de Djougou. Pendant ce temps au Nord Kivu, la situation humanitaire demeure préoccupante dans la région de Beni et dans le territoire de Massissi et ses environs. Plus de 700 000 déplacés sont enregistrés à Beni, alors que dans le Massissi, plus de 80 000 personnes sont en errance et manquent de tout. Constat fait par la coordonnatrice humanitaire adjointe en RDC après sa mission à Beni la semaine dernière, Suzanne Kalech, a fait remarquer que la capacité d'intervention des humanitaires est très limitée alors que les besoins sont énormes. La coordonnatrice humanitaire adjointe en RDC explique au micro de Sifa Maguru.
La situation est vraiment très difficile et très préoccupante. Plusieurs des personnes avec qui ont partagé leur histoire avec nous ont perdu leur famille, leur mari, leurs enfants. Ils se trouvent apparemment dans une situation de vulnérabilité extrême. Vous avez des personnes qui se sont déplacées entre le mois de juin et de juillet. Nous avons eu presque 80 000 personnes qui se sont déplacées dans le territoire de Massisi. Ils continuent d'arriver.
Qu'est-ce que vous promettez à ces populations qui souffrent beaucoup?
Il y a déjà des assistances humanitaires, mais ça n'est pas suffisant. Ce que nous devons faire, c'est de faire beaucoup plus de plaidoyers, aussi pour s'assurer qu'il y a des fonds en plus, parce que les besoins sont énormes. Et malheureusement, le HRP, le fonds humanitaire, le plan humanitaire pour la RDC, est financé à moins de 30% seulement. Et ça fait que nous nous trouvons dans une situation que nous ne pouvons pas adresser tous les besoins.
Elle ajoute que l'accès aux déplacés reste un défi. La communauté humanitaire a déjà perdu au moins 5 travailleurs et d'autres kidnappés ou blessés depuis le début de l'année, a déploré Suzanne Kalech. En séjour à Bukavu, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a lancé symboliquement les opérations d'immatriculation des agents de l'administration publique du Sud-Kivu. Cette cérémonie a eu lieu hier dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Jean-Pierre Liaou a précisé que ce recensement biométrique se déroulera dans toutes les provinces du pays, une opération qui permettra de lutter contre les doublons, les agents fictifs et les cumuls au sein de l'administration publique congolaise. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était exprimé au micro de Cynthia Bachizi.
Dans le cadre du fichier de référence de l'administration publique, des informaticiens bien formés vont se déployer partout en province, en commençant par des provinces pilotes, dont le Sud-Kivu, pour essayer de remonter de manière sécurisée et fiable les données concernant le fonctionnaire de l'État au niveau de toutes les administrations publiques. Comme ça que nous sachions exactement, par rapport aux listes déclaratives qui ont été transmises auparavant, qui sont bel et bien en poste. Et c'est en fonction de cela que nous allons prendre une série d'actions concernant la régularisation de nouvelles unités, concernant la mécanisation de ceux qui ne reçoivent pas leur salaire à la fin du mois et les primes, mais aussi la titularisation, la promotion en grade et la gestion rationnelle de la question de la retraite.
Les médecins des services publics de l'État se disent déçus du manque de matérialisation des engagements du gouvernement congolais, engagements contenus dans les récents accords du 3 août 2021 ayant abouti à la suspension de la grève. Lors d'un point de presse tenu hier au siège du SINAMED ici à Kinshasa, le banc syndical représenté par Simeco et SINAMED exige du gouvernement une exécution en toute urgence des différents engagements au risque de lever la suspension de la grève. Écrit par ailleurs l'action du ministère de la Santé d'aligner à la prime de risque professionnel 300 médecins dits recommandés sans considération des critères établis. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
À la question de savoir quel délai le banc syndical des médecins laisse au gouvernement pour se ressaisir par rapport à ce qu'il qualifie de graves conséquences sur le capital confiance accordé au gouvernement, Dr Juvenal Mwanda de Simeco réagit en ces termes.
J'aimerais vous rassurer que ce sont des médecins qui parlent. Quand le médecin parle d'une urgence, c'est dans l'immédiat. Nous n'avons pas un délai à accorder. La question d'aliments, on est dans l'agenda paye. Si ce n'est pas redressé dans l'urgence, le mal est fait et la correction risquera d'être plus difficile encore et les effets plus dramatiques. C'est comme ça que nous nous abstenons donner un délai.
Le banc syndical des médecins note par ailleurs que le gouvernement n'a pas rendu fonctionnelle la commission interministérielle chargée de l'harmonisation des salaires et de l'alignement à la prime des risques. Il met ainsi en doute sa bonne foi et sa volonté de tenir ses engagements. Docteur Mankoy Badjoki du SINAMED.
Si nous sommes arrivés concrets, une commission interministérielle, c'était pour éviter les clientélistes, les monnayages de l'alignement. On va aligner 300 médecins. Les dossiers n'ont pas été étudiés par la commission. Soit les jeunes médecins doivent accepter d'adhérer dans leur parti politique. Comme ça, ils ont des soutiens politiques pour être alignés. Nous, notre rôle, c'est de demander qu'on respecte les critères.
Rappelons qu'au nombre des engagements du gouvernement figure la promulgation de l'ordonnance présidentielle portant promotion aux grades et fonctions de médecins et la régularisation de la situation de leurs collègues non encore mécanisés.
Et puis, Radio Okapi diffuse cette semaine une série de reportages sur la conservation des corps dans les morgues à travers quelques villes du pays. Pendant plusieurs années, certaines villes ont gardé une seule morgue. À la suite de la démographie galopante de la population, les autorités tentent de créer des nouvelles infrastructures, mais cela doit faire face aussi à d'autres réalités, notamment le manque du courant électrique pour les frigos mortuaires ou la faible capacité des frigos devant une demande croissante, comme c'est le cas récemment avec le nombre des décès dus au coronavirus dans certaines villes. Ce matin, nous proposons de suivre la situation à Goma, au Nord Kivu. Après la meurtrière troisième vague du COVID-19, nous avons fait un tour des morgues de la ville. Seuls 6 hôpitaux sont dotés du service de la morgue dans cette ville, avec une moyenne de 6 chambres par morgue. Ce service est opérationnel dans la majorité de ces hôpitaux, 24 heures sur 24. Les conditions hygiéniques sont acceptables, mais le problème majeur, c'est le coût du service, $20 le jour, sans compter les frais de traitement du corps le jour de son retrait. Rosalie Zawadi a fait le tour des morgues de Goma. Voici son reportage.
L'hôpital provincial, l'hôpital militaire, Keshero, Bethesda, Virunga et Charité maternelle sont les 6 hôpitaux de la ville qui disposent d'une morgue. La morgue de l'hôpital Bethesda d'Endosho est opérationnelle depuis une année. Elle comprend 6 chambres, des tiroirs, des brancards ainsi qu'une paillasse sur laquelle sont traités les corps. La morgue de l'hôpital de Keshero a 6 chambres aussi. Kitamba Lajambedel, directeur des nursing de cet hôpital, explique que la population a parfois du mal à payer ses services. Un autre problème, c'est celui de la protection du personnel affecté à la morgue.
Il y a les corps qu'on vient déposer à la morgue et la famille disparaissent dans la nature. Il n'y a personne qui viendra récupérer les corps. Là, ça devient un fardeau au niveau de l'hôpital. Et puis, il y a des familles qui peuvent déposer les corps, mais la paix, ça devient problème. Il y a d'autres problèmes, c'est par rapport au swap du corps. Parce que les intras, nous les recevons à partir des partenaires. Pour le moment, il n'y a pas des intras qui viennent de la protection civile, tout soit de l'OMS, donc ça pose problème.
Si les problèmes d'énergie ne se posent pas beaucoup, selon les différents responsables rencontrés, il vaudrait tous voir les morgues renforcées dans la ville pour leur éviter de placer 2 corps par chambre en cas de saturation. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Direction le Kasaï central, je vous le disais en titre, 26 condamnés de la prison centrale de Kananga bénéficient de la mesure de grâce présidentielle. Ils ont été libérés sur décision du procureur général près la cour d'appel du Kasaï central, selon Dieudonné Kongolo. Ces personnes sont celles qui ont répondu aux critères d'éligibilité. C'est entre autres pour escroquerie, abus de confiance et vol qualifié. Le procureur général près la cour d'appel du Kasaï central explique au micro de François Kadima.
Il s'agit des remises des peines. Hein. Il y a des gens qui ont été condamnés, c'est-à-dire des décisions qui sont devenues irrévocables à partir du 30 juin 2021. Il y a ceux qui étaient condamnés à moins de 5 ans, ceux qui étaient condamnés au-delà de 5 ans, et des gens qui ont été condamnés à mort, qui ont vu leur peine commuée en servitude pénale à perpétuité, des condamnés à perpétuité qui ont vu leur peine commuée à temps, c'est-à-dire à 20 ans. Donc, il y a plusieurs catégories. Et en ce qui concerne les infractions, ce n'est pas toutes les infractions qui sont visées, c'est-à-dire être condamnées. L'ordonnance est claire. Pour ceux qui sont condamnés, par exemple, pour violence sexuelle, ils sont écartés du bénéfice de cette mesure, du détournement des deniers publics et concussion, corruption, des rémunérations illicites. Ceux qui sont poursuivis pour des assassinats, des crimes de sang, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs sont écartés de cette mesure, ils ne peuvent pas en bénéficier. Ceux qui sont poursuivis aussi pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État n'en bénéficient pas.
Actualité, Afrique Monde.
L'ONU et la communauté internationale condamnent le coup d'État mené par le colonel Mamadi Doumbouya en Guinée. Antonio Guterres dit suivre de très près la situation dans le pays. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé dès dimanche à la libération immédiate du président Alpha Condé. Entre-temps, sur place en Guinée, le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a reçu hier tous les membres de l'ancien gouvernement et les responsables des institutions. Il a ensuite, dans un discours, promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et assurer qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Le 7 septembre, aujourd'hui, est le jour de la fête nationale au Brésil. Le président Jair Bolsonaro compte mobiliser ses troupes dans des manifestations à travers tout le pays lors d'une journée qui s'annonce tendue alors qu'il fait face à une crise institutionnelle. Des anciens dirigeants et des élus de gauche du monde entier alertent contre un possible coup de force du président d'extrême droite.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Acelo Quito, affirme que la décision de l'organisation imminente de l'élection des gouverneurs dans les 14 provinces sur 26 à travers le pays fait suite aux instructions du chef de l'État à l'issue du deuxième conseil des ministres. Il estime aussi que c'est une obligation constitutionnelle de pouvoir urgemment combler le vide à la tête de la province du Congo central et pense qu'il est tout aussi légal que ces élections soient organisées par la CENI de Corneille Nanga. Daniel Acelo s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Sur base de quel rapport le gouvernement, par le biais de votre ministère, a-t-il décidé de l'organisation imminente de l'élection des gouverneurs dans les 14 provinces sur les 26?
À son deuxième conseil de ministres, le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son Excellence Jean-Michel Samalukonde, a été instruit par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et par mon biais d'ailleurs, pour que nous puissions entrer en contact avec la CENI pour voir dans quelle mesure organiser les élections dans des provinces dont les gouverneurs ont été déchus par les assemblées provinciales. Voilà pourquoi je me suis mis au travail. Le travail demandé par le chef de l'État et donc par le gouvernement, parce que nous étions en conseil des ministres, je me suis mis au travail en invitant la CENI. Nous avons travaillé ensemble et nous avons produit un premier rapport que j'ai déposé sur la table de son Excellence Monsieur le Président de la République le 26 juin 2021. Et quelques temps sont passés, la Cour constitutionnelle, qui avait encore en son temps autant de dossiers, venait de rendre une série d'arrêts. Et c'est ainsi que nous nous sommes encore remis au travail et nous avons la CENI et mon ministère, pour les comptes du gouvernement bien sûr, nous avons fait ce travail-là sur les plans technique et nous avons dressé cette liste-là.
Alors, le Congo et la ville-province de Kinshasa sont aussi concernés, selon les messages publiés par vous. Alors, comment expliquer cela?
La ville-province de Kinshasa, le vice-gouverneur qui était là, était déjà déchu de ses fonctions. C'est pas moi, l'arrêt est là. Le Congo également, le vice-gouverneur était déjà parti. Et donc, ici, au vu des dispositions de la Constitution de la République, l'élection du vice-gouverneur devra être organisée dans ces deux provinces-là.
Mais l'article 23 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces stipule que le gouverneur et les vice-gouverneurs sont investis par ordonnance présidentielle. Ce qui veut dire, par parallélisme des formes, ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que par le chef de l'État. Alors que je sache, les vice-gouverneurs de Kinshasa notamment, et même celui des Kwango, ne l'ont jamais été par une ordonnance.
Non, ici, on ne dit pas qu'ils ne peuvent être démis que par le chef de l'État.
Par parallélisme des formes.
Ici, il ne s'agit pas de la révocation, de la démission, comme on voudrait bien le dire. Ils ont tous deux étaient mis en cause par leur assemblée provinciale respective. C'est de ce fait qu'ils sont partis de leur gouvernement respectif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un article de la loi électorale qui prévoit que, en pareil cas, le gouverneur en fonction puisse présenter un candidat vice-gouverneur. C'est ce qui va se faire.
Alors pourquoi les lois là-bas n'est pas concernée tandis que le Congo central l'est?
Les lois là-bas, qu'est-ce qui se passe aux lois là-bas?
Il y a une vice-gouverneur, hein, si je peux me permettre, si, qui fait l'intérim depuis
mais
longtemps.
Le gouverneur Moïse n'a jamais été démis de ses fonctions.
Et pourquoi il ne travaille pas?
Non, mais il y a des réalités telles qu'elle a été rappelée à Kinshasa et maintenant là, il fait des va-et-vient et il se rend régulièrement en Afrique du Sud. C'est moi-même ici qui venais de lui donner l'autorisation et quand il revient, je pense qu'il est dans ses fonctions et on verra.
Et pourquoi le Congo central?
Non, le Congo central, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le Congo central, les gouverneurs estiment que même s'il y a eu des arrêts, même s'il a été mis en cause par son assemblée provinciale, il doit y demeurer. Est-ce qu'il peut nous dire, au jour d'aujourd'hui, sur le plan des droits, comment M. Atou Matoubouana va continuer à garder, à gérer la province du Congo central? Résolution qu'il a démettait de cette fonction-là, Matoubouana ne l'a jamais attaqué, alors jamais attaqué à la Cour constitutionnelle. Mais moi-même, je me posais
poser des questions en tant que juriste aussi, en tant qu'avocat. Comment ce monsieur-là est resté autant de mois en train de gérer la province alors qu'il a été déchu par son assemblée provinciale, alors qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation, en lui demandant même de démissionner, en imposant même un devoir au ministre de l'Intérieur, que je suis aujourd'hui, de pouvoir nommer un intérimaire. Mais le monsieur est resté.
Mais selon ses dernières déclarations, il est soutenu par le chef de l'État pour lui donner l'électorat en 2023.
C'est lui qui dit ça?
Il a dit lorsqu'il a lancé les travaux d'aménagement des voiries à Matadi.
Tout gouverneur aujourd'hui, même Zoé Kabila, s'il pouvait encore être là, il dirait à tout Congolais qu'en 2023, il soutiendra le président Tshisekedi. C'est pas un problème. Il y a un problème de droit.
Qui organise ces élections? La CENI de Nanga ou le ministère de l'Intérieur? La CENI de Nanga, qui est démissionnaire.
C'est la CENI de Nanga. Tant qu'elle existe là, tant que les autres tergiversent, je suis désolé. C'est monsieur Nanga qui organise.
Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cette interview.
Notre invité, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, s'entretenait avec J.R. Lungembo. Ainsi s'achève ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rumushinj. Merci de rester des nôtres. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.radiocapi.net.